Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Que vous soyez sur votre siège préféré, que ce soit votre première fois parmi nous, en présentiel ou à distance, quel plaisir de vous retrouver ce dimanche pour rendre gloire à Dieu. Sentez-vous accueillis et les bienvenus. Nous allons entrer dans ce temps de culte avec les annonces. Premièrement, mardi 20 février à 20h15, vous rappelez la prière communautaire qui aura lieu dans la salle du CTT. Deuxièmement, Claude Parnigoni a des places pour Glorious encore 9, si je ne dis pas de bêtises, pour un concert à la Genève Arena. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui dans le foyer après le culte. Et enfin, troisième annonce, en plus de celle qui défile avant et après le culte, automatiquement, je voudrais vous remercier pour vos dons, qu'ils soient financiers, via la boîte au fond de la salle, via Twint, via virement, ou encore via le temps passé pour servir l'Église. C'est l'ensemble de ces dons qui nous permettent de fonctionner et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile tous les dimanches, dans ces murs et au-delà. C'est d'ailleurs une transition toute trouvée pour le groupe Mission qui va me rejoindre sur scène avec Cyril, Paul Robert et, si je ne dis pas de bêtises, Sylvain, pour prier justement pour Sylvain qui va sortir de nos murs mérinois pour quelques temps. Et ensuite, ce sera nos chers musiciens qui prendront le relais pour nous guider dans la louange que nous voulons rendre à Dieu ce matin.
Bon, ok, effectivement, on m'a demandé de dire deux mots. Je pars au Laos dans trois jours, mercredi matin, de bonne heure. Et je vais y passer un mois et demi. Donc, c'est un pays où j'ai vécu pour la première fois il y a un peu plus d'un demi-siècle, et où je retourne souvent et où j'ai beaucoup d'amis. On a une ONG qui s'appelle Service Fraternel d'Entraide, qui a beaucoup de projets de développement dans la santé, dans l'agriculture, l'eau potable, etc. Donc on va visiter un petit peu tous ces gens, mais j'ai aussi beaucoup de relations avec d'autres ONG locales, d'autres ONG sur place, des partenaires, en particulier dans l'Église. Et puis je vais aussi, à un moment donné, retrouver un responsable d'Église du Laos et un pasteur laotien de Lyon. On va se retrouver ensemble pour travailler sur l'histoire de l'Église dans la langue du pays, le laotien. Et puis j'aurai aussi pas mal de support informatique qui m'attend. Voilà, donc beaucoup de choses, beaucoup de relations et beaucoup de défis.
Ça marche? Ah oui, passez-le. Du coup, attention, j'ai un micro si tu veux. On voulait prendre un temps pour prier pour Sylvain. On imaginait difficilement qu'on ait encore un missionnaire dans le groupe Mission, c'est très bien, on est content. Donc voilà. Oui Seigneur, je veux te prier pour Sylvain. Merci beaucoup pour l'énergie que tu lui donnes encore, tant d'années après son départ en mission là-bas au Laos. Je te prie de pouvoir le garder dans les échanges qu'il va pouvoir avoir, dans tout ce long voyage. Tu vois que c'est une période relativement longue de voyage et je te prie de l'accompagner dans chacune des interactions qu'il pourra avoir, qu'il puisse mener à bien les objectifs et la mission qu'il s'est donnée pour ce mois et demi qu'il met à part entière pour ce pays et pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Ce qui est formidable avec toi, Seigneur, c'est qu'on est toujours jeune, toujours prêt à te servir. C'est le cas de Sylvain, Seigneur, nous voulons le bénir en ton nom, en croyant que tu es celui qui l'envoie. Et nous, Église de Mérin, nous voulons nous associer à cela et l'envoyer aussi. Prier pour lui, lui dire que nous le soutenons. Nous sommes avec lui dans ses déplacements, dans ce qu'il va faire pour toi là-bas. Merci Seigneur, parce que tu bénis ce pays du Laos. Tu bénis ceux qui y travaillent. Que ce soit dans les hôpitaux, les écoles, etc. Ou que ce soit dans le cadre du service fraternel d'entraide. Seigneur Jésus, tu bénis toute cette équipe et tu bénis ces rencontres. Et nous croyons que la présence de Sylvain sera un encouragement pour chacun. Alors merci Seigneur parce que nous pouvons nous confier les uns et les autres en toi. Bénis-le Seigneur. Amen.
Amen. Tout merci.
Bon voyage Sylvain.
Merci.
Bonjour à chacun et à chacune. Nous entrons maintenant donc dans le temps de louange de ce culte. En le préparant, j'ai été plus que jamais animée par cette conviction que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Donc la louange, elle est essentielle à nos vies, quelles que soient les circonstances et en particulier dans les instants de souffrance. En effet, prendre le temps de louer Dieu, de vive voix ou en écoutant des chants, c'est s'abandonner à la présence de cet ami fidèle et tendre. Et ainsi, on est aussi protégé du diable ou du malin, qui est dit ennemi dans un des chants. Et surtout, nous cherchons aussi à être les plus fidèles possibles à sa perfection morale ou sainteté. Voilà, je vous invite à vous lever pour louer Dieu ensemble, glorifier, lui rendre grâce, lui témoigner toute notre gratitude. Car Seigneur, oui, toi qui as donné ta vie, qui est mort et ressuscité pour nous sauver du mal et du péché, quel privilège de vivre notre foi en toi et de renouveler le plus important des engagements, celui de te suivre toute notre vie. Amen. Sainte,
te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu
Ce matin, malgré les vacances scolaires, on a la chance d'avoir énormément d'enfants. Donc Nicolas Béroux va les accueillir. Donc les enfants, je vous invite à le rejoindre, juste là, puis à le suivre. Et puis moi, je vais prier pour nos enfants et puis Nicolas. Seigneur, qu'il est bon de voir les enfants gambader dans les rangs de notre Église. Je te remercie pour le don précieux qu'ils sont pour nous. Je te remercie d'avoir Nicolas ce matin qui les prend pour les guider. Merci pour l'engagement qu'il a envers nos jeunes. Je te prie que ton esprit l'accompagne dans cette matinée et dans ce temps avec nos jeunes. Amen. Également un service de garderie qui est fait par les jeunes du Caté aujourd'hui, si vous le souhaitez. Remontez le micro également. Il y a 3 semaines, Philippe a commencé une série de 3 cultes. Cette série s'appelle « Faire face à la souffrance ». Bienvenue pour le 2e volet de cette série. Le 1er volet était intitulé « De l'incompréhension à la sagesse ». Je crois reconnaître un bon nombre de visages qui étaient là le 28 janvier, mais aussi certains qui n'ont pas pu assister à ce 1er culte de la série. Ajoutez à ça les 3 semaines bien chargées de nos vies respectives, qui nous séparent de ce culte, je vous propose en introduction un petit résumé du 1er message avant de laisser la place à Philippe. Le 28 janvier dernier, Philippe nous a parlé de la souffrance, celle que nous voyons comme anormale, injuste, insupportable. De la souffrance qui n'est pas un mal nécessaire, ni un mal qui précède le bien. En effet, il nous a parlé de la souffrance qui ne tolère aucune explication, aucune justification, aucune excuse. Cette souffrance incompréhensible et qui nous révolte. Alors, je ne vais pas me substituer à la prêche de Philippe, qui est disponible en replay sur le site de l'Église. Je vais juste prendre le temps de vous repartager les grandes lignes de ce premier culte de la série. Ce qui ne vous dispense absolument pas d'aller l'écouter ou le réécouter. Philippe nous a guidés dans un premier temps pour aller chercher la sagesse de Salomon à travers du livre de l'Ecclésiaste. Nous partons d'un constat, chrétien ou pas, nous souffrons, telle est notre condition humaine. La vie est absurde, le temps qui passe, la mort, l'injustice. Vanité, tout n'est que vanité, mais il y a Dieu. Et en effet, grâce à l'éclairage de l'Ancien Testament, et tout particulièrement l'exemple de Job, nous avons pu nous remémorer un témoignage qui dit que l'on peut aimer Dieu même s'il n'y a a priori aucun avantage immédiat à en retirer. Job est le cas extrême, tout va mal, la tempête fait rage dans la vie, et pourtant, il tient bon, sa foi est ferme et solide. Pour comprendre comment l'homme peut être attiré à Dieu, Philippe nous donne quatre raisons tirées du livre de l'Ecclésiaste. La première, la quête du sens. À quoi servons-nous? Où allons-nous? Toutes ces questions que l'homme avec un grand H se pose, c'est un signe que nous sommes faits pour autre chose, que tout n'a pas encore été dit, que la fin n'est pas au cimetière. Deuxième raison, le temps. Force est de constater que nous ne maîtrisons rien. L'avenir ne nous appartient pas, on ne peut pas le connaître. Par contre, nous pouvons reconnaître que Dieu est le maître des temps de l'existence, et alors nous vivrons autrement. Troisième raison, la joie. Les plaisirs que Dieu nous accorde dans cette vie, les dons qu'il nous accorde, les petites joies comme les grandes, Dieu n'a pas prévu que de la souffrance pour cette vie. Le plaisir fait partie de la création, Dieu l'a voulu ainsi. Enfin, la quatrième raison, le jugement. Un jour, la justice divine sera rendue, et à ce moment, les erreurs de l'humanité seront corrigées. Nous avons soif d'une justice que seul Dieu peut étancher. Conclusion, d'un côté, toute l'humanité, toute l'activité humaine sur cette terre est d'une futilité sans nom. D'un autre côté, si nous tenons compte de Dieu, si nous acceptons de sa main la part qui est la nôtre dans la création, alors notre vie aura un sens. Vanité, tout n'est que vanité, mais il y a Dieu. Voilà, c'était mon résumé. Je vous renvoie à la prédication du 28 janvier, ou encore, plus important, à lire ou à relire le livre de l'Ecclésiaste pour plonger au plus proche de la parole de Dieu à ce sujet. Avant le message de Philippe, qui s'intitule « Mais où est Dieu dans la souffrance ?», je vais laisser la place à l'équipe Louange pour préparer nos cœurs avec le chant « Relever le faible » de Glorious.
Tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton père. Bonjour à chacun, à chacune. Relever le faible, c'est tout ce que nous sommes, si on regarde honnêtement. Durablement ou à un moment donné de nos vies, nous avons besoin d'être relevés. Et j'aimerais évoquer un peu ce matin ce Dieu qui nous relève, ce Dieu qui, dans la souffrance, est un Dieu qui vient nous rejoindre et nous faire du bien. Il y a 3 semaines, nous avons vu comment le livre de l'Ecclésiaste cherche le sens de la vie. Et je crois que le sens de la vie est contenu particulièrement dans ce livre précieux de l'Ecclésiaste. Comment l'Ecclésiaste nous amène, Nicolas le rappelait, de l'incompréhension devant la souffrance à la sagesse lorsque nous y sommes confrontés. Et puis, nous avons évoqué un peu, et nous le referons ce matin, le livre de Job. Et avec ces 2 livres, l'Ecclésiaste et Job, nous avons un petit groupe de textes bibliques que nous appelons des livres de sagesse. Portant la sagesse. Ils commencent ces livres non pas avec une révélation de Dieu, mais ils commencent ces livres avec la condition humaine. Et ils examinent la condition humaine à laquelle vous et moi nous sommes soumis, ils examinent la condition humaine sous le regard de la foi. Il est très important dans Job et dans l'Ecclésiaste de suivre ou d'essayer de suivre le cheminement de l'auteur. Il est très important, quand on lit ces livres, de ne pas prendre un passage au pied de la lettre sans connaître le contexte plus large. Et c'est pour ça que nous prenons un peu de temps le dimanche matin autour de ce thème-là. Pour ne pas juste isoler un verset et faire de ce verset toute la vérité biblique. Il faut prendre en compte le contexte. Pour l'Ecclésiaste, vanité des vanités n'est que le commencement de la réflexion. Ce n'est pas tout le message du livre. Ce n'est pas la conclusion du livre. Ce n'est pas l'épilogue des choses. C'est le début. Mais parfois, nous, c'est tout ce que nous retenons. Vanité des vanités, tout est vanité. Oui, mais à la fin, il y a Dieu. Pour Job, les déclarations de ses amis ont été désavouées par Dieu à la fin de l'histoire. Et pourtant, aujourd'hui encore, des chrétiens et des chrétiennes bien intentionnés, pieux, prennent les conseils des amis de Job pour argent comptant, alors que Dieu les a désavoués. C'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est forcément inspiré. Les conseils des amis de Job sont clairement démolis par Dieu. Job, donc, entre désespoir et lumière. Je reviens un instant à lui, à Job. Il a tout perdu. Tout. Ses enfants, ses biens, sa santé, tout perdu. À partir de là, ses cris à Job sont poignants. Et il fait preuve, Job, d'une totale transparence. Dieu ne reprochera jamais à Job d'exprimer sa douleur, ses émotions. Il le reprend à un moment donné. Mais pas parce qu'il a exprimé sa douleur et ses émotions, il le reprend sur le fait d'avoir osé parler avec présomption de choses qu'il ne maîtrisait pas. Job au chapitre 42, au verset 3. Ce que je retiens en lisant le livre de Job, ce que je retiens en écoutant Job, c'est que nous avons le droit d'avoir mal et de le dire. Nous avons le droit d'avoir mal et de le dire. Et les psaumes viendront confirmer ça. Nous avons le droit d'avoir mal et de le dire. D'autant que le fait de mettre des mots sur notre souffrance exerce certainement une fonction thérapeutique. Nous avons le droit d'avoir mal et de le dire. Ça n'a rien à voir avec des chrétiens qui ont tout le temps la banane, qui font semblant que tout roule. Nous avons le droit d'avoir mal et de le dire. Job, il incarne donc une foi à visage humain. Ils ne se sont pas coupables, d'éprouver certaines émotions. Il ne cherche pas, Job, à refouler son désarroi. Il ne veut pas entrer dans le moule du croyant exemplaire à tous égards. Il n'affiche jamais une spiritualité de façade. Il est honnête avec lui-même. Il est honnête avec Dieu. Il est honnête avec ses amis. Il est honnête avec sa femme. Il est honnête de bout en bout. Et au lieu de verser dans une forme de stoïcisme, il dénonce, Job, le côté absolument aberrant et révoltant de la souffrance. Cette immense qualité de Job donne la preuve d'une véritable spiritualité chrétienne à visage humain. Et puis au sein de sa souffrance, Job, il a parfois des éclairs, des éclats, des lueurs d'espoir. Par exemple, au chapitre 16, Job est convaincu d'avoir un ami dans le ciel. Pas un ami imaginaire, hein ? Un véritable ami dans le ciel. Il dit que cet ami dans le ciel va plaider sa cause. En Job, au chapitre 17, il demande à Dieu lui-même de se porter garant de sa défense contre Dieu. Ça vous dit rien ? Dieu qui plaide contre Dieu, Dieu qui interpelle Dieu, moi ça me renvoie à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est une anticipation de la croix. Puis, dans un magnifique élan de lucidité et de foi, Job affirme même que quand il sera mort, son Rédempteur le justifiera. Moi, je sais que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que ma peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Même la mort, pour Job, n'est pas la fin de l'histoire. Ou surtout la mort n'est pas la fin de l'histoire. Parce que même mort, il contemplera Dieu. Ce qui se passe donc dans le livre de Job n'est pas linéaire. Et la réalité humaine que nous connaissons, vous et moi, n'est pas linéaire non plus. Nous savons, si nous sommes honnêtes, qu'il y a en nos vies des hauts et des bas. Job, il commence dans le désespoir le plus total, et on peut le comprendre. Et dans ce désespoir total, il va jusqu'à demander la mort. Puis, par intermittence, nous entendons des mots d'espoir de plus en plus forts et nous avons l'impression que sa souffrance s'atténue un peu sans jamais disparaître. Et l'un des sommets du livre, c'est ce chapitre 28 de Job, où il pose la question « Qui peut bien détenir la sagesse ? Alors, dans tout ce que je vis, dans tout ce qui me traverse, dans tout ce que je constate, qui détient la sagesse? À qui est la sagesse? C'est quoi le fin mot de l'histoire? Et dans ce chapitre, il vise les fausses certitudes de ses amis qui disent avoir trouvé la raison de sa souffrance. Job, si tu souffres, c'est parce qu'il y a un péché. Chez toi, il y a un truc caché. Il y a un truc qui ne va pas, Job. Tu dis non, mais plus tu dis non, plus on est convaincu que tu es pécheur. Et il vient démonter ce raisonnement que Dieu, à son tour, viendra démonter. Et Job dit qu'il n'a que deux certitudes. C'est que Dieu est le seul à maîtriser les choses, et c'est que la véritable sagesse dans la vie consiste à se détourner du péché. Dieu maîtrise, toi détourne-toi du péché. Mais d'explication de la souffrance, vous n'en trouverez aucune. Aucune. Alors où est Dieu dans tout ça? D'abord, et on le voit au début et à la fin du livre, Dieu est souverain. Le malin qui est présent dans le récit de Job, le malin, le mal, n'impose nullement ses quatre volontés à l'Éternel. Le malin se trouve plutôt à la merci de l'Éternel et il fait partie des figurants que le Seigneur contrôle. Nous sommes là au cœur du mystère du Dieu à la fois tout-puissant et sage. Plutôt que d'éradiquer le pouvoir malfaisant du diable et du péché, Dieu juge préférable de laisser sévir le mal pour un temps. Lisez le livre de Job. Job n'accuse jamais le diable. Jamais. Il accuse Dieu d'injustice. Puis il s'appuie sur la justice de Dieu. Puis il revient à ses grands pourquoi, parce qu'il ne comprend pas. Et c'est tout ce que nous vivons, vous et moi. On ne comprend pas. Alors parfois, on crie à Dieu. Parfois, on réalise quelque chose de sa justice. Puis on revient à nos grands pourquoi. Parce que nous ne comprenons pas, etc., etc. Puis à un moment donné, Dieu se révèle à Job. Dieu l'invite à observer la nature, la création. Puis là, il lui pose des questions sur les grands phénomènes météorologiques. Job ne les maîtrise pas. Puis l'Éternel fait passer devant lui des animaux, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Des choses que Job ne maîtrise pas. Chapitre 38 à 41. Dieu se donne de la peine pour faire comprendre à Job la beauté et le mystère de la création. Je crois qu'il y a là même pour nous un rappel aujourd'hui sur notre rapport à la nature. En tous les cas, les questions qui traversent Job nous disent qu'il n'est pas sage de défier le Seigneur ou de chercher à lui tenir tête. Parce qu'en bout de compte, il nous montre sa souveraineté. Manifestement, les pourquoi de Job exprimaient bien son désarroi. Et il avait le droit d'être dans le désarroi. Mais ces pourquoi n'ont jamais produit de réponse directe de Dieu. Du point de vue de Dieu, il importait que Job lui fasse confiance. Qu'il marche par la foi. Qu'il accepte même, et je le dis en tremblant, de souffrir sans comprendre. Et que dans la souffrance, il prouve devant tous son amour, son allégeance, sa loyauté. Le message du livre ici, de Job, c'est que les tentatives de fournir une explication à la souffrance sont vouées à l'échec. Et que nous ne pouvons pas exiger de Dieu qu'il nous rende des comptes au sujet de la souffrance. Trouver une raison à la souffrance injuste se serait ôté son caractère scandaleux. Expliquer le mal, ce serait lui trouver une raison d'être, ce serait lui faire une place dans l'ordre des choses. Or, le mal ne s'explique pas. Il reste une injustifiable réalité qui doit toujours provoquer l'indignation. Le mal ne se justifie pas. L'innocence de Job, qui est attestée dès le début du livre, n'est jamais démentie par l'intéressé. L'innocence de Job sera confirmée par Dieu lui-même à la fin du livre, ce qui démontre que la thèse selon laquelle Job était éprouvé en raison de son péché était une thèse fausse. Est-ce que Dieu se sert de la souffrance? Je crois que oui, parce que la Bible le dit. Mais cela ne signifie pas que Dieu a besoin du mal pour venir faire du bien. Cela signifie que Dieu est plus fort que le péché qui a fait irruption dans notre monde et plus fort que les souffrances qui ont marqué l'humanité depuis ses débuts. Pour utiliser une image tirée du judo, Dieu utilise la force de l'adversaire à ses propres fins. Mais le mal reste un adversaire que la Bible n'explique pas ni ne justifie jamais. Et c'est parce que Dieu se sert de la souffrance que nous pouvons alors, nous, comprendre un de ces versets paradoxaux de la Bible. Le verset paradoxal que je souligne, il est dans l'épître de Jacques. « Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. » Ça, c'est paradoxal, non? Toutes sortes d'épreuves, très heureux. Notre perception de la réalité ne correspond pas naturellement à ça. Nous n'avons pas d'explication au problème de la souffrance du juste. Lorsque nous sommes directement affectés par le problème, nous n'en comprenons pas les bienfaits. Mais l'Écriture laisse entrevoir une intention divine qui peut donner sens à la souffrance, même si nous n'en prenons conscience qu'après coup, parfois très longtemps après. Dans le livre de Job, il y a quatre amis qui se relayent à son chevet. Le quatrième, c'est Éliou. Et Éliou dit à Job que l'épreuve, parfois, peut servir d'avertissement. Qu'elle est de nature, l'épreuve, à inspirer la réflexion, la prise de conscience. Éliou affirme donc que Dieu a voulu utiliser la souffrance de Job pour l'éduquer au bien. Mais voilà, encore une fois, cette explication, elle ne s'appliquait pas à Job. Le principe, il est parfois juste, mais il faut l'employer à bon escient. Parce qu'avec ça, nous sommes dans le parfois et pas dans le toujours. Parfois, l'épreuve aura une valeur de sanction et de châtiment. Parfois, l'épreuve aura valeur de correction et de mesure éducative. Parfois, elle est un moyen d'apprentissage et de formation indispensable à notre croissance spirituelle. Parfois, elle révèle la valeur de la foi. Parfois, elle est un laboratoire où on peut faire une sorte de contrôle technique de notre vie avec Dieu. Parfois, l'épreuve est un stade qui fournit aux chrétiens ou à la chrétienne l'occasion de mener la course. Parfois, l'épreuve a pour objectif de défendre et de justifier l'honneur de Dieu. Il y a de multiples raisons pour considérer l'épreuve comme un sujet de joie complète. Mais sur le coup, on ne le voit pas. Si on accompagne quelqu'un, on ne dit pas « l'épreuve est un moyen de tester ta foi ». On se garde d'en choisir une pour plaquer sur une souffrance que nous ne vivons pas personnellement. C'est après, parfois longtemps après, que nous comprenons les fruits positifs que nous avons si péniblement vécus dans l'instant. Quel fruit ? Moi, je crois que l'épreuve est loin d'être stérile. La Bible dit qu'elle produit la patience, selon la suite du verset de Jacques. Paul écrit aux Romains, « La souffrance produit la persévérance, la fidélité et l'espérance. La souffrance de la foi est récompensée par la couronne de vie. » Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, Jacques 1, verset 12, mais l'épreuve est récompensée. Dans Hébreux 12, la souffrance peut favoriser la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et puis, la souffrance, l'épreuve, nous rend normalement plus compréhensifs et miséricordieux envers les autres. Je cite là Paul aux Corinthiens. Dieu nous accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. L'épreuve nous rend plus compréhensifs et miséricordieux envers autrui. La souffrance se trouve placée sous le regard bienveillant de l'Éternel, qui en contrôle les modalités, qui en fixe les dosages, les limites, l'intensité et la durée. Quelqu'un a dit un jour que lorsque Dieu nous fait traverser la fournaise, il garde l'œil sur le thermomètre et la main sur le thermostat. Je l'ai expérimenté des dizaines de fois, mais m'en suis rendu compte qu'après. Est-ce qu'il faudrait donc courir vers la fournaise ? Est-ce qu'il nous faudrait courir vers le martyr ? Ça a été l'attitude de nombre de chrétiens à travers l'histoire du christianisme. Mais ce n'est pas très sain. Reconnaissons simplement que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein, y compris des horreurs qui nous révoltent et qui ne devraient pas exister. La croix n'était-elle pas une horreur ? Et pourtant, Dieu en a fait sortir le salut du monde. Une autre question, est-ce que Dieu souffre ? Notre pensée chrétienne, occidentale en tout cas, reste très marquée par la philosophie grecque. Dans sa perfection, Dieu serait complètement insensible à la souffrance et ne souffrirait pas lui-même. Pourtant, le témoignage de l'Ancien Testament, c'est que Dieu a connu et connaît la souffrance. Il n'est pas insensible au point de ne pas éprouver de la tristesse, surtout en rapport avec le péché de sa création. Au temps de Noé, il nous est dit que l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et qu'il en eut le cœur très affligé. Dans le Nouveau Testament, on retrouve la thématique de la souffrance de Dieu, mais elle se manifeste surtout en Jésus. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Jésus pleure sur l'impénitence de Jérusalem. Jésus pleure sur la mort de Lazare. Alors je sais bien qu'à plusieurs égards, Jésus y semble passif devant l'état du monde. Par exemple, Jésus n'a jamais cherché à supprimer l'esclavage. Il n'a même pas guéri tous les malades de son temps. Il ne s'offusque pas qu'il y ait des riches et des pauvres. Il prédit des guerres, des famines, des cataclysmes de grande envergure. Dieu semble régner au ciel, mais pas sur la terre. C'est comme si sa volonté n'était pas faite ici-bas. C'est parce que, dira l'apôtre, la volonté qui est exercée ici-bas, c'est celle du Dieu de ce siècle, le prince de ce monde. Et en même temps, Jésus affirme qu'avec sa venue, le règne de Dieu s'est approché. Encore un paradoxe. Jésus se savait pleinement investi d'une mission divine. Il dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Ah bon ? Vraiment ? Mais ceci doit nous amener, en conclusion, dans quelques instants, à considérer l'œuvre de Jésus à la croix. Avant cela, une remarque encore. Est-ce que nous devons souffrir pour être sauvés? Est-ce qu'il faut en baver pour gagner le ciel? Il existe une façon de faire face à la souffrance qui n'est peut-être pas très habituelle en milieu évangélique, bien que, mais qui est répandue dans de nombreuses fois chrétiennes. C'est que souffrante elle-même ou accompagnant des personnes qui souffrent, ces personnes remettent leur souffrance à Dieu et par là s'en trouvent sauvées. C'est un courant que nous appelons le dolorisme. Si j'en bave, c'est que Dieu a quelque chose de mieux pour moi. Non pas comme un fardeau dont on se déchargerait, mais comme une prière, comme une offrande, comme une expiation. J'expie mes fautes et je gagne la faveur de Dieu. C'est une démarche qui a certainement une certaine puissance psychologique. La souffrance, tout d'un coup, trouverait un sens. On pense compenser ou effacer par ce moyen, le dolorisme, ses propres fautes. Et à l'origine de cette approche, il y a un texte de l'apôtre Paul, Colossiens 1, 24. « Maintenant, dit-il, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Paul, il faut qu'on parle. Toi, tu compléterais quelque chose? Le chrétien évangélique réagit vivement contre l'idée que quoi que ce soit puisse manquer aux souffrances rédemptrices du Christ. Tout est accompli, dit Jésus, au moment de remettre son esprit entre les mains du Père. L'épître aux Hébreux dit avec une force incroyable que le sacrifice de Christ à la croix est parfait, que rien ne lui manque, qu'il a été réalisé une fois pour toutes, qu'il est complet. Nous n'avons pas ici l'idée d'une souffrance qui rachète du péché. Parce qu'obtenir le salut du monde à travers la souffrance, cela appartient à Jésus-Christ seul et à la croix. Ce qu'on trouve sous la plume de Paul, c'est l'idée d'une souffrance qui est nécessaire pour que le salut aille au bout du monde. On va pouvoir intégrer dans cette optique-là la souffrance des martyrs. Depuis plus de 2000 ans et aujourd'hui encore, la souffrance des martyrs, elle n'ajoute rien au salut de Jésus-Christ, mais elle accompagne la proclamation de l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Avoir part aux souffrances de Christ ou communier à ses souffrances, comme le dit Paul en Philippiens 3:10, ça nous aide non seulement à insérer notre compréhension de la vie chrétienne normale qui intègre la souffrance, mais aussi à détourner notre regard de nos misères pour nous focaliser sur Jésus-Christ. J'accompagne actuellement une personne qui est en fin de vie, en soins palliatifs. Et elle me disait cette semaine encore, et je cite cette phrase parce qu'elle m'autorise à la partager avec vous, « Mon Sauveur a souffert, et moi je ne souffrirai pas. Je ne suis pas masochiste, je suis chrétienne. » Enfin, il me faut souligner la souffrance de la croix. Mais encore une fois, en apportant quelques nuances. Une certaine vision de la croix met tout l'accent sur la souffrance physique de Jésus. Le sang qui coule, les grumeaux. Alors bien sûr qu'on ne doit pas sous-estimer la souffrance physique. Et pour faire souffrir, les Romains s'y connaissaient. Mais contrairement à un réalisateur comme Mel Gibson, les évangiles parlent de la croix avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de pudeur. Une certaine piété aime détailler les souffrances de la croix. Et pourtant, nous, chrétiens évangéliques, nous récusons les crucifix sanguillonnants de la tradition. Alors que tel plan fixe d'un film d'évangélisation peut aller dans le même sens, ou même certains cantiques, comme si on voulait valoriser la valeur du sang. Les auteurs du Nouveau Testament ne s'expriment jamais dans ce registre. Pourquoi ? Pour moi, la raison, elle est simple. Ça consisterait à dire que les crucifixions, les autres exécutions publiques étaient tellement fréquentes, tellement connues, qu'il ne servait à rien d'en détailler l'horreur. Plus tard, lorsque les chrétiens raconteront les souffrances, par exemple, des martyrs de Lyon, comme Blandine, massacrée par un taureau, dans les arènes de Lyon, en 177, eh ben les textes qui rapportent cet événement ne nous épargnent aucun détail. Pourtant, les évangiles ne sont pas dans ce ton-là. Et je pense que la pudeur des évangiles par rapport aux souffrances de Jésus s'explique si on dit que l'essentiel n'est pas dans la souffrance. L'essentiel, c'est qu'il a offert sa vie en sacrifice d'expiation. Il a donné sa vie en rançon. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il est devenu, dit l'apôtre Paul, malédiction. Alors le mot, il est incroyablement fort. Il a été maudit pour que nous, nous soyons guéris. Ses meurtrissures nous sauvent. Nous n'avons pas, nous, à chercher à être meurtris, ni dans notre corps, ni dans notre âme. C'est ses meurtrissures qui nous sauvent. Il n'y a pas de place pour le dolorisme dans la foi évangélique. Ce ne sont pas les souffrances de Christ en tant que telles qui nous sauvent. Ce n'est pas parce que son sang a coulé que nous sommes sauvés. C'est parce qu'il s'est donné, c'est parce qu'il s'est sacrifié, c'est parce qu'il a déposé sa vie. En y réfléchissant, la croix apporte certaines réponses au problème de la souffrance. Sans comprendre le pourquoi des souffrances injustes, nous pouvons dire que notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous aime, celui que nous aimons, est passé par là. La souffrance, il connaît. De première main, il a été tenté comme nous à tous égards, y compris dans la souffrance, sans commettre de péché. Et le serviteur, la servante, n'est pas plus grand que son maître. Regarder à la croix permet ainsi de se dire que notre expérience de la souffrance, notre expérience de la mort même, n'est pas inconnue de Dieu, n'est pas contraire à la personne de Dieu, n'est pas extérieur à Dieu. Christ nous a laissé un exemple, dira Pierre. Un exemple au sujet de la croix, 1 Pierre 3,18. Cet exemple, c'est l'exemple du juste qui souffre. C'est l'exemple de quelqu'un qui accepte par avance la souffrance, qui sait qu'elle viendra et qui ne se dérobe pas à elle, qui s'y prépare, qui en parle avec ses amis. C'est l'exemple de quelqu'un qui se prépare à mourir en prenant par exemple les dispositions pour son entourage, pour sa mère par exemple, qu'il confie à Jean. C'est l'exemple de quelqu'un qui se prépare à la mort en pardonnant à ceux qui lui ont fait du mal. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est quelqu'un qui se prépare à la mort, par avance, en s'en remettant au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La souffrance, il connaît. Il s'y prépare en prenant des dispositions pour les siens, en pardonnant aux autres et en s'en remettant à Dieu, publiquement. L'histoire de l'humanité, elle se cristallise à la croix parce que Dieu y assume personnellement le péché des hommes et ses conséquences. La croix de Jésus-Christ, elle nous révèle la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu. Elle n'est pas seulement une révélation, mais elle effectue la rédemption. Selon tout un ensemble d'expressions qui démontrent la richesse, je sais c'est des mots théologiques, mais il faut mesurer ça. Quand la Bible parle de la croix, elle parle d'une rançon, elle parle d'un sacrifice, elle parle d'une substitution, elle parle d'une expiation, d'une propitiation. Dieu devient favorable, d'une justification, d'une réconciliation, d'une sanctification, d'une adoption, d'une victoire. C'est tout ça la croix. C'est pas juste une souffrance. C'est une victoire. La nôtre. À cause de Jésus. Je conclus. Dans la souffrance, Job a crié vers Dieu. Moi, j'aimerais entendre plus souvent les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes, quand nous sommes dépassés, oser crier vers Dieu. Dans l'angoisse, au cœur de la souffrance, quand nous perdons pied, quand nous ne savons plus où nous en sommes, c'est là que la foi jaillit. C'est ça la leçon de Job. C'est que quand on est submergé, la foi jaillit. Un éclair dans la tempête qui illumine tout. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu se sert de la souffrance. Elle n'échappe pas à son contrôle, pas un instant. Mais nous ne percevons pas toujours le sens des événements parce que nous ne sommes pas Dieu. Il est cruel de jeter à la face de quelqu'un qui souffre n'importe quelle explication, même biblique. Dieu n'est pas insensible à la souffrance humaine. Christ souffre encore aujourd'hui lorsque son peuple souffre. Il souffre. Quand il est persécuté, il souffre. Elle est précieuse pour Dieu, la mort de ceux qu'il aime. La fin de vie, la souffrance de la toute fin de vie, elle est précieuse pour Dieu. Mais notre souffrance n'expie pas nos fautes. Seul Christ, à la croix, rachète nos péchés. Le sens de la croix ne se trouve donc pas dans sa cruauté, mais il est dans le fait que le Christ s'est offert comme victime expiatoire, comme une rançon à la place des coupables que nous sommes, pour que nous soyons, vous et moi, sauvés. Nous pouvons être réconfortés en pensant que le Christ a souffert comme nous, mais mille fois plus injustement que nous. La souffrance, il la comprend de première main, et il est avec nous, même quand nous traversons ce qui nous submerge. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, aucun, car tu es avec moi. Il est là. Dimanche prochain, nous essaierons de regarder au-delà de la souffrance. Merci pour votre patience. Si quelqu'un souhaite des notes, elles sont complètes et je les mets volontiers à disposition. Amen.
Très très riche. On va maintenant prendre le chant rédempteur du monde.
Merci Philippe pour le message que Dieu t'a confié pour nous ce matin. Merci à la louange d'avoir clos ce message par ce chant. Je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, un temps de prière libre pour vous-même ou à haute voix. Je conclurai ce temps avec une prière avant de refermer ce culte avec la bénédiction.
Combien bienfaisante, combien réconfortante, soulageante. Merci Père. en Jésus. Amen.
Seigneur, je te prie de manifester ta bonté auprès de nos frères et sœurs en la foi qui souffrent. Les raisons sont multiples, mais Seigneur, nous savons que tu comprends de première main et nous te prions ensemble de faire du bien là où ça fait mal, s'il te plaît. Amen.
Que vois-tu, Jérémie lui fut posé cette question. Est une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit, tu as vu juste car c'est ma parole, je veille sur elle. Éternel Dieu, merci pour ce moment que tu nous accordes en assemblée. Merci pour cette parole, Seigneur, qu'elle nous édifie, qu'elle nous éclaire, Seigneur, car, comme l'a dit ton serviteur tout à l'heure, et ceci est également dans ta parole, même quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec nous. À chaque instant, nous devons nous remémorer ces paroles. Nous devons nous dire, chaque pas que nous faisons, à chaque instant que nous vivons, tu es avec nous. Quelle que soit la défiance, quelle que soit la souffrance. Merci de nous conduire à la repentance pendant ces moments. Sois béni éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te donne cette prière. Amen. Amen.
Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui est loin de la souffrance, puisque toi-même tu l'as vécu tellement. Et merci parce que dans les moments qui nous dérèvent, les moments difficiles de la vie, eh bien, tu peux nous apporter ta paix, cette paix qu'aucune autre chose, aucune autre entité ne peut nous apporter. Et je te prie de réconforter, Seigneur, les gens qui sont dans des passages très compliqués de la vie, avec la perte d'un proche ou d'autre, Seigneur. Sois comme un baume sur les cœurs. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Seigneur, face à cette souffrance révoltante, permets-nous d'être là les uns pour les autres, permets-nous d'en parler entre nous, de ne pas nous enorgueillir, d'être humble vis-à-vis de ça. Tu as traversé la souffrance, tu as payé à la croix, ça fait partie de notre vie, tu es là avec nous, tu as l'œil sur toute cette souffrance pour la régler en fonction de nos capacités. Accorde-nous la sagesse de nous détourner du péché. Et nous savons que tu seras, quoi qu'il arrive, à nos côtés, jusqu'à ce que nous te rejoignions. Au nom de Jésus. Amen. Pour conclure, je vous propose de lire une partie du psaume 34, les versets 18 à 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen.
Bon dimanche à tous et bonne semaine. Merci.